Alors, la semaine dernière, on a regardé Romain, qui était un gros pavé de Paul. Et ce soir, on va regarder les autres lettres de Paul, sauf 1 et 2 Thessaloniciens, qu'on va pas regarder ce soir, parce qu'ils parlent surtout de la fin des temps. Et on va les regarder dans 2 semaines, quand on regardera un cours un peu de survol sur... la fin des temps et la vision de ce que présente la Bible sur comment se déroule la fin des temps et donc on pourra regarder 1 et 2 Thessaloniciens, des choses de Daniel, certaines prophéties et certains éléments de Apocalypse. Donc on regarde ce soir 4 autres lettres à des églises ou peut-être 5. 1 et 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, et 3 épîtres pastorales, ou 4, enfin 1 et 2 Timothée, Tite et Philémon. La semaine prochaine, on va regarder les lettres qu'on appelle les lettres hébraïques. On verra pourquoi. Ça inclut Hébreux, Jacques, 1 et 2 Pierre, 1, 2 et 3 Jean et Jude, qui sont un petit peu séparés. Mais ce soir, on va regarder le reste du gros des écritures de Paul. Et on sait que Paul a évidemment contribué une grande partie du Nouveau Testament et a donné énormément de choses qui sont importantes pour l'Église, pour notre foi, pour notre vie en tant que chrétien. Et on va essayer de faire ça un petit peu ce soir. C'est difficile parce que il y a tellement de choses sur lesquelles on pourrait s'approfondir, sur lesquelles on pourrait regarder en détail ce soir. Regarder tous ces livres, faut prendre le temps, faut prendre beaucoup de temps, parce qu'il dit beaucoup de choses. Mais ce soir, on va essayer de le faire pour vous donner un peu les grandes idées et pour un peu dégrossir le travail. Sur ces lettres, il y en a 3, Éphésiens, Philippiens et Colossiens, que Paul a écrit depuis la prison. En prison, donc ça aide aussi à se rappeler un petit peu le contexte et à se mettre dans la peau de ce qu'il dit et comment il communique. C'était les prisons de l'époque, c'était pas les prisons d'aujourd'hui où on a la télé, internet, les toilettes et tout va bien. C'était autrement plus rudimentaire et difficile à vivre. Et donc ça donne un contexte qui est important et surtout quand on voit souvent ce qu'il écrit. Ça met beaucoup de relief aussi à ce qu'il dit. Dans 1 Timothée 3:16, juste pour nous donner un petit peu, encore une fois, là on est toujours un petit peu dans l'introduction, ce verset dans 1 Timothée 3:16 dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Et C'est un verset qui résume assez bien l'ensemble des écrits de Paul. Paul, il a des écrits où il va instruire ou enseigner, où il va présenter la doctrine. On a vu Romains la semaine dernière où c'est plutôt il essaye de présenter la doctrine sur le salut, sur la justification. Il y a d'autres lettres et d'autres écrits où il va plutôt essayer de convaincre de péché, où il va reprendre des erreurs de comportement de gens qui font des choses qui ne sont pas bonnes, et il va leur écrire pour les reprendre et pour leur dire écoutez, ce que vous faites c'est pas bien, et voilà pourquoi, et il faut que vous changiez de comportement, etc. Et puis il y a, par rapport à ce verset où il dit corriger, c'est l'idée de correction d'erreurs doctrinales. Il y avait pas mal de situations, et on va regarder dans les différentes lettres, où les gens, ils avaient entendu, où ils mélangeaient avec d'autres philosophies ou d'autres idées, où il y avait des gars qui arrivaient puis qui disaient « Ah non, moi j'ai finalement, Paul, ce qu'il raconte c'est bien, mais il faut faire ça aussi », et ils tordaient un peu les doctrines. Et donc souvent aussi, Paul va écrire en disant « Bon, bah il faut rester sur la saine doctrine, sur ce que je vous ai enseigné quand j'étais présent. » Rappelez-vous ces choses et n'acceptez pas ces autres choses qui sont fausses, qui sont mauvaises et qui vont vous détourner du juste chemin.
Et c'est un problème qui existe de nos jours aussi, malheureusement.
Oui, ça existe de nos jours. Évidemment, on est humain, les mêmes humains à l'époque que nous, et les mêmes tendances vers le péché, les mêmes tendances au niveau de comment on va accepter les vérités de Dieu et comment on a tendance à tomber dans l'erreur, soit dans nos comportements, soit dans ce qu'on comprend. En tout cas, ça aide d'avoir ces trois idées en tête quand on lit ces lettres pour prendre les choses qu'il dit dans leur contexte. Il est en train de corriger, il est en train de parler de comportement, et ça aide vraiment. Et donc, par rapport à ce qu'on a vu et ce qu'on va voir ce soir, on pourrait dire que Romains, ce que je vous disais, c'est la doctrine par rapport au salut. On pourrait dire que 1 et 2 Corinthiens, c'est des corrections de péché par rapport à cette idée de salut et la justification. Et que Galates, c'est des corrections de doctrine encore par rapport à cette idée de salut et de justification. Le livre d'Éphésiens, c'est un peu une présentation de doctrine sur l'Église. Les mots techniques de théologiens, c'est ce qu'ils appellent l'ecclésiologie. Sur Romains, ils disent que c'est la sotériologie. C'est des thèmes, des mots pour les gens qui veulent faire des doctorats, etc. Philippiens, ce serait un petit peu des corrections par rapport à des comportements ou des péchés liés à ces idées dans l'Église. Et Colossiens, ce serait des corrections aussi par rapport à des doctrines qui étaient fausses par rapport à ces idées par rapport à l'Église. Et puis, 1 et 2 Thessaloniciens, qu'on va pas regarder ce soir, c'est une présentation de doctrine sur la fin des temps. Donc ça aussi, ça aide un petit peu à se mettre un peu les choses en tête. Et alors, quelques notes avant de regarder 1 et 2 Corinthiens. Paul, souvent dans ses lettres, sa manière d'aborder les questions, c'est d'aborder la théorie ou la doctrine. Il va dire, alors attendez, on va remettre en place la doctrine, voilà ce que les vérités. Et ensuite, il a une deuxième partie où il dit, puisque c'est vrai, puisque ces choses sont comme elles sont, alors il doit avoir des comportements en conséquence. Et donc souvent dans ses lettres, pas toutes, mais souvent, il y a cette partie. On avait vu dans Romains qu'il y avait une première partie qui était vraiment beaucoup sur des idées philosophiques, théologiques, un peu de la théorie. Et puis, en fait, après, dans la deuxième partie de Romains, il dit, bon, et puisque ces choses sont vraies, ben aimez-vous les uns les autres, aidez-vous, priez, comportez-vous correctement. Et donc, il y a souvent ces deux parties. Et c'est quelque chose finalement qui est fondamental dans la foi chrétienne. C'est l'idée que Dieu a agi et il y a une réalité vis-à-vis de Dieu. Et cette réalité, ce que Dieu a fait et ce que Dieu est, exige ou demande une réponse de notre part. Et une réponse par le comportement et la vie, par ce qu'on fait. Et donc on voit dans les lettres de Paul, c'est l'importance de ces idées-là. Et on va voir dans certaines de ces lettres l'idée que c'est pas seulement l'idée d'avoir des connaissances de la philosophie ou de la science qui est importante, mais c'est aussi qu'il y ait des comportements et des vies qui correspondent à ces idées et qui s'en suivent. Avec ces lettres, une note. Un peu ce qu'on disait là, le fait qu'il y a encore des problèmes de nos jours. Souvent, on a tendance à se dire que l'Église, au début, était bien, et puis au fur et à mesure du temps, elle est devenue de moins en moins bien, et que maintenant, on a ce qu'on a. Maintenant, le fruit de 2000 ans de conséquences, entre guillemets. Mais en fait, c'est faux et archi-faux. Et quand on regarde dans Actes, quand on regarde dans les lettres de Paul et quand on le regarde dans les autres lettres, on s'aperçoit que dès les premiers jours, dès les premières heures quasiment de l'Église, il y avait plein de problèmes. Paul, sur certaines de ses lettres, c'est des églises qui sont 10 ou 15 ans après la vie de Jésus. Donc Jésus était là 15 ans avant et on s'aperçoit que les églises sont déjà en train de de remettre en cause que Dieu était peut-être pas du tout humain, qu'il était juste esprit. Enfin, il y a des théories bizarres qui circulent. Il y a des comportements, on va voir dans Corinthiens, où il faisait n'importe quoi au niveau de la sexualité, de comment il se comportait entre croyants, etc. Et on s'aperçoit qu'en fait, l'Église, qui est constituée d'êtres humains, qui sont des pécheurs, dès les premiers jours, est pleine de problèmes. C'est important parce que sinon, il y a des gens parfois qui tombent dans un idéalisme et qui se disent on va revenir à ce qui est écrit dans Actes et on va enlever tous les codes, on va pas faire une association pour être en règle avec la loi en France, on va faire un truc comme ce que je lis et tout ira mieux si on revient aux sources. Et un peu cette tendance à essayer de dire toute l'histoire de l'Église depuis les premiers jours qu'on voit dans la Bible sont mauvaises, donc les vieux pasteurs, ils savent pas de ce dont ils parlent, leur Église sont mauvaises, donc moi je vais retourner à la Bible et tout va aller mieux. Et c'est évidemment une erreur, c'est un problème de fierté, un problème aussi de compréhension de la Bible et des premiers jours et de ce qu'on voit dans les lettres de Paul. Et on voit que Paul, il passe le gros de son temps à réexpliquer des choses basiques et à dire « Mais comment vous arrivez à retomber dans ces péchés? Vous comprenez pas, je vous ai déjà expliqué, vous faites pas avoir, etc. etc. » Donc on va le regarder, mais c'est bon de se le rappeler. Et un deuxième point, par rapport à ce que je suis en train de dire, c'est aussi, parfois on lit ces lettres en se disant « Mais ils sont vraiment bêtes, pourtant c'est clair, comment est-ce qu'ils ont réussi à croire de telles choses ?» Quand même, nous on tombe pas aussi facilement, etc. C'est important aussi d'approcher ces lettres parfois avec humilité, suivant son arrière-plan, et de se dire, ben moi aussi je suis capable de tomber dans ces erreurs-là. Et ces lettres, Dieu me les a données dans la Bible aussi pour que moi je lise et que je me dise, attention, ça c'est une erreur, je peux tomber là-dedans, ça c'est une erreur, je peux tomber là-dedans. Et notamment dans Galates 6. Paul dit « Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. » Et puis il dit « Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. » Et puis il continue au verset 3 « Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre. Car chacun portera sa propre responsabilité. » Et il continue, mais cette idée de veiller sur soi-même, de peur que nous aussi on soit tenté, c'est une idée qui est importante, et l'idée que de pas juger forcément les gens dans ces lettres et de se dire c'est vraiment bête. Pour les lettres, si vous avez ces Bibles là, c'est indiqué sur le côté là où sont les livres. Donc il y a ça, c'était dans Galates 6, 1, ce que je vous ai lu. Mais on va commencer vraiment à se plonger dans l'étude avec 1 et 2 Corinthiens. Donc si vous voulez vous y tourner, on va regarder quelques-uns des versets. Paul a une histoire assez riche avec l'église de Corinthe. D'après ce qu'on voit dans la Bible, on peut supposer que Paul a écrit au moins 4 lettres aux Corinthiens, dont il nous en reste que 2. Et il a séjourné 3 fois à Corinthe. Il a fondé l'église à Corinthe, on le voit dans Actes 18. Il est question d'une première lettre qu'il leur a envoyée, mais qu'on n'a pas. Et ensuite, là, en fait, 1 Corinthien, ce serait une deuxième lettre qu'il avait écrite. Et il fait référence dans cette lettre d'1 Corinthien à une autre lettre qu'il avait envoyée plus tôt. Et puis plus tard, sa deuxième visite, dans 2 Corinthiens, il en parle comme étant une visite douloureuse, où il avait dû les reprendre sur pas mal de comportements qui n'allaient pas. Et après cette deuxième visite, il va encore leur envoyer une lettre qu'il qualifie de sévère, où il devait reprendre des erreurs. Et la quatrième lettre, c'est 2 Corinthiens, celle qu'on a. Donc on voit qu'il y a des lettres qu'on n'a pas, qui ont disparu, qu'on n'a pas récupérées. Et puis, il y aura un troisième séjour plus tard. Après, on n'est pas au courant des détails de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais en tout cas, il y avait pas mal d'échanges et de choses avec cette église de Corinthe. Et la ville de Corinthe était connue, par ailleurs, dans la culture de l'époque, comme une ville avec une grande immoralité sexuelle liée à des cultes païens par rapport aux dieux grecs et aux choses qui s'y passaient à côté. Et on voit dans 1 et 2 Corinthiens que ces choses ont infecté l'Église. Cette culture ambiante qu'il y avait dans les villes ont infecté l'Église et que Paul va être obligé de les reprendre sur pas mal de ces points. Donc 1 Corinthiens. Alors dans toutes ces lettres aussi, c'est toujours bon de se rappeler que c'est des lettres. Nous, on aime bien parfois avoir des choses super, super... des PowerPoint. On aime bien avoir un tableau avec point 1, point 2, point 1, sous-article A, le code du travail. Ou là, on a envie. Et parfois, quand on approche ces livres, quand, si vous lisez des commentaires ou vous regardez, parfois on a les gens qui essaient de découper, tac, tac, ça c'est paragraphe 1, B, machin, tac, tous les points. Et c'est des... C'est bien parce que ça aide dans la tête à se faire un modèle des idées de ce qui communique, mais c'est des lettres. Et je sais pas vous, quand vous écrivez des lettres, c'est pas évident d'avoir toujours. On a des idées, mais vous écrivez, puis à un moment vous vous dites peut-être ah et tiens je pense à ça, et vous rajoutez une parenthèse, et puis ce que vous dites ça vous fait, vous revenez finalement au point. Et donc ça reste des lettres, et on le voit dans la manière quand il commence, il va dire salut c'est Paul, bonjour à un tel, salut à un autre. Dans Romains on a vu qu'il parle à presque une trentaine, 35 personnes à Rome qu'il connaît en disant salut à. Et donc ça reste des lettres, et c'est bon de se le rappeler et de pas les rendre trop, c'est pas des traités purs de théologie systématique. Et d'une certaine manière, c'est bon aussi parce que c'est des choses qui finalement sont aussi abordables et peut-être plus lisibles parfois. Et donc, dans 1 Corinthiens, il a des choses qui lui ont été rapportées par des gens qui avaient été à Corinthe, et aussi des questions qui lui ont été posées par les Corinthiens, peut-être par lettre interposée, on n'est pas sûr. Mais le livre suit un peu cette structure. Il va aborder « Ah, on m'a dit qu'il se passait telle chose dans l'église, bon ben voilà ce que j'en pense, et voilà ce que vous devez faire, etc. » Un tel m'a posé une question sur est-ce qu'il vaut mieux se marier ou être célibataire, ou etc. Donc voilà la réponse. Et donc il y a un peu... c'est pas décousu, mais c'est un peu... il répond à des questions et à des choses qu'il a entendues et qu'il veut reprendre et qu'il veut corriger. Assez vite, on s'aperçoit qu'il va les reprendre en disant... En fait, il commence avec des questions de division et des problèmes de rivalité au sein de l'Église, et il rentre assez vite dans ces questions-là. La plupart du temps, Paul, il a toujours un petit peu du tact. C'est pas quelqu'un qui gueule. Il va dire bon ben bonjour à un tel. Je suis très reconnaissant pour vous à l'Église. Je vous aime beaucoup. Je prie beaucoup pour vous. Bon, mais par contre j'entends qu'il se passe telle chose. Alors ça va pas du tout. Il faut que donc il fait preuve aussi de tact avec ces gens, et il montre un côté très humain et comme on pourrait le faire nous, écrire à quelqu'un, et on va pas tout de suite l'assassiner en disant tu fais n'importe quoi, ça suffit. Non, il va dire bon bah je t'aime bien, mais par contre il y a certaines choses qui vont pas, et donc ça pour un peu aider à faire passer la pilule. Alors il commence avec une section, avec une partie ici de questions de division à partir du verset 10 là dans le premier chapitre. Et il va passer sur ces questions de division, et après il va parler de sagesse. Alors il commence très très tôt avec les divisions et dit c'est pas la volonté de Dieu. Il s'était fait des factions, c'était un petit peu comme s'il y en avait à l'église et qui disait bon ben moi je suis dans l'équipe de Pierre, je viens avec mon maillot Pierre, et les autres ils viennent avec le maillot j'en sais rien Tonio, et les autres ils viennent avec un maillot Maurice, et voilà, et Maurice il est mieux qu'un tel, et un tel il est non, l'autre lui il a vraiment reçu la volonté de Dieu, et donc il se faisait des espèces de petits combats de lutte interne comme ça, et Paul il dit non, on est tous chrétiens, on suit Jésus, et tous les autres ce sont des serviteurs de Jésus, ce sont des ouvriers au même niveau, et il n'y a pas de raison d'avoir de fierté en un tel ou un tel à faire des camps. Alors il continue avec ces idées là et puis il va parler de sagesse. Alors, dans pas mal de ses lettres, une idée intéressante, c'est que Paul il est souvent repris parce que ou mis en cause parce que les gens, quand ils le voyaient en personne, ils considéraient que c'était pas quelqu'un de très impressionnant. C'était pas un très bon parleur en personne, il avait pas une prestance, c'était pas quelqu'un, quand il arrivait dans la pièce, on se disait bon, on va l'écouter, wow, il est beau, il parle bien, machin. Et donc souvent, en fait, il y avait d'autres gars qui arrivaient, d'autres personnes qui étaient plus, qui parlaient mieux, qui avaient peut-être, qui arrivaient à, j'en sais rien, mais il est souvent obligé un petit peu de se défendre par rapport à ces choses-là où les gens ils vont dire ah un tel il est mieux, il parle mieux, etc. Et lui il va dire non mais moi je et là dans cette idée de sagesse, l'idée c'est qu'il leur dit non mais c'est pas la question de savoir si un tel est sage ou pas, et l'idée c'est il veut revenir à l'évangile, et il dit l'évangile c'est de la folie, c'est pas quelque chose de sage aux yeux des hommes, c'est quelque chose qui par rapport à la sagesse humaine est ridicule. Ça a pas de sens, et il va dire là, l'idée c'est que c'est si on le présente vraiment si on le considère, c'est quelque chose qui est pas quelque chose qu'on pourrait considérer comme sage au niveau de l'humanité, quelque chose de compliqué, et on va le voir dans toutes les lettres, souvent ça revient, il est obligé de redéfendre sa position et de dire non, c'est quelque chose de basique et on n'a pas à faire des philosophies compliquées dessus. L'évangile, c'est que Dieu s'est fait homme, Jésus, il est venu sur terre, il est mort, on l'a enterré, il est ressuscité, et si vous croyez en ça, ça peut être votre justification vis-à-vis de Dieu et votre salut. Et voilà, et c'est tout. Et on l'avait vu dans Romains où il disait que il a pas honte de l'évangile, que c'est la puissance de Dieu pour le salut de l'homme. Et cette idée que c'est ça qui est ce que Dieu utilise. Et il va développer avec l'idée que même la folie de Dieu, c'est mieux que toute la sagesse des hommes. En disant Dieu est tellement au-dessus que même ce qui pourrait être ridicule pour Dieu, c'est mieux que toute la sagesse cumulé des humains. Et alors il va dire par exemple au verset 17 du premier chapitre là, ils disent ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé par rapport à ce qu'il disait avant, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents, etc., etc. Il continue, et au verset 23, il dit, or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes, etc., etc. Donc c'est quelque chose je m'attarde dessus, on va pas pouvoir passer autant de temps sur chaque lettre, mais dans Corinthiens, parce que ça donne un peu le ton de pas mal de ces lettres où il y a des, Paul plantait une église, il restait peut-être 6 mois, 1 an et demi dans un endroit. Il y avait des gens qui se convertissaient, faisaient une petite église dans une maison, puis lui, il continuait à voyager et laissait les gens. Et donc, vous vous imaginez, vous venez à l'église 6 mois, et puis tout le monde s'en va, Pierre, moi, on s'en va, et vous êtes là avec votre Bible, et faut continuer, quoi. On comprend aussi qu'il y a eu des mauvaises interprétations, puis d'autres gens qui arrivent, qui disent, je suis croyant, écoutez-moi, j'ai un message à vous faire passer. Donc, il y a pas mal de choses à ce niveau-là qui peuvent poser problème. Alors, dans le livre, là, alors il continue, on va pas s'attarder dessus, mais il va aborder des questions du mariage et de l'infidélité qui posaient problème. Il y avait des problèmes par rapport à la nourriture, et notamment à l'époque, il y avait ce qui se passait, c'est qu'il y avait des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. Dans les rites païens ou pour différentes raisons, et souvent c'était une viande qui après était moins chère, et les juifs, parce qu'ils avaient la vieille loi, considéraient que cette nourriture-là était impure, et donc il y avait des divisions dans l'église, il y en avait qui mangeaient, il y en avait d'autres qui ne mangeaient pas, donc et certains qui étaient fiers, qui disaient non mais moi je suis plus spirituel parce que je mange de la viande et ça me pose pas de problème, ou c'est un peu comme aujourd'hui, on pourrait dire ah non, moi je peux faire tout et n'importe quoi, ça me pose pas de problème parce que je suis plus libre en Christ, ou j'en sais rien. Et donc il est obligé d'aborder ces questions. Il aborde aussi des questions par rapport à la Sainte Cène. Et alors il y a deux idées que j'ai tirées de tout ce passage. Alors on va pas regarder, mais il développe beaucoup. Alors il y a pas mal de questions. Deux idées, c'est d'abord une idée de ce que je vais dire, je l'ai appelé l'intendance, et c'est l'idée qu'on est sauvé. On est sauvé par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. Et dans pas mal de ses lettres, il est obligé de reprendre les gens qui disaient puisqu'on est sauvé, puisque ça c'est pas la question des œuvres, on est tranquille. Je suis sauvé, maintenant je vais faire ce que je veux et je suis tranquille. Et il est obligé souvent de revenir là-dessus et de dire non, il y a quand même une question de votre comportement maintenant. Dieu, il vous demande de vous comporter. Il vous sauve pour que vous soyez remplis d'esprit et que vous vous comportiez d'une certaine manière. Et c'est pas juste pour que vous puissiez avoir une licence de je peux aller faire ce que je veux. Et dans 1 Corinthiens 3, il va parler, on en avait parlé, je crois d'ailleurs avec Rosemary la dernière fois, une des fois il y a longtemps, sur l'idée que il y a des récompenses. Et c'est quelque chose qui est enseigné dans le Nouveau Testament, qu'on est sauvé, ça c'est fait, mais qu'on peut aller au ciel en mode sans bagage, ou on peut venir avec des récompenses pour avoir obéi à la parole et avoir eu un bon comportement. Et Paul va les encourager, va leur dire qu'il faut essayer de vivre de la manière dont Dieu veut, et ça va vous amener un bonus au ciel. Alors on sait pas exactement ce que ça implique, ça c'est abordé brièvement, mais c'est une réalité. Et un deuxième point, c'est l'idée de maturité spirituelle. Ces croyants, souvent, leur idée de maturité spirituelle, c'était un peu l'idée que ils pouvaient faire plus que les autres sans se sentir condamnés. Et Paul, dans cette lettre et dans d'autres, il va souvent appuyer sur l'idée qu'on a une maturité spirituelle quand on montre de la considération pour les autres et quand on met l'intérêt des autres avant notre propre intérêt. Moi, je peux peut-être aller faire certaines choses. Je peux peut-être manger, par exemple, dans ces cas-là, de la viande sacrifiée aux idoles, et ça me dérange pas. Je sais que Dieu ne va pas me juger, et ça me pose pas de problème. Et peut-être qu'il y a quelqu'un dans la pièce qui est très gêné par ça, par son arrière-plan, ou j'en sais rien, culturel, etc. Et Paul va dire, la maturité spirituelle, c'est dire, puisque cette personne-là a un problème avec ça, on est plus mature spirituellement si on dit, par amour pour cette personne, je vais pas manger parce que je veux pas gêner cette personne. Et souvent, l'idée, c'est que la maturité spirituelle, c'est quand on aime et quand l'intérêt de l'autre passe avant le nôtre. Et l'exemple le plus frappant étant Jésus qui a mis notre intérêt plutôt que son intérêt. Pour nous sauver, il a bien voulu donner sa vie. Et c'est cette idée que la maturité spirituelle, c'est quand on donne plus d'importance, quand on aime l'autre plus que soi-même. Et cette idée-là permet d'introduire les chapitres 12, 13 et 14 qui sont très connus, qui parlent des dons spirituels et de l'amour. Et on peut résumer ces chapitres à cette idée-là. Il vaut mieux le fruit de l'esprit. Dans Galates 5, il est question du fruit de l'esprit, qui est l'amour, la paix, la joie et une liste de choses qui sont des qualités, des vertus, et que les dons de l'esprit. Et la Bible nous enseigne qu'on peut avoir des dons qui servent pour l'Église, pour faire la volonté de Dieu. Et c'est alors dans le livre ici, dans le chapitre 12, il va en parler et il va dire bon bah il y a une diversité de dons, il y a pas mal de dons spirituels différents que l'Esprit donne. L'Esprit les donne selon sa volonté. Pas tout le monde a les mêmes dons, il y en a différents. Il y a plein de membres dans l'Église et chacun a son rôle et il y a différents rôles. Il y a une diversité de services, il y a différents besoins dans l'Église, mais une Église qui est unie. Il y avait encore une fois un problème de fierté où les gens étaient un petit peu en mode « ben moi j'ai tel don, donc je suis mieux que toi parce que toi t'as pas ce don-là » et « Cocorico, moi j'ai ce don-là, donc c'est mieux que... » Et en fait, ils avaient une approche égoïste des dons. C'était un peu « le don, il me sert à moi ». Et Paul, il va revenir dessus en disant « bon, bah, c'est bien, mais les dons, c'est pour les autres. Les dons, c'est pour exercer et pour exprimer de l'amour envers les gens dans l'Église, pour édifier l'Église et pour exprimer son amour envers Jésus. » Et donc, c'est ce chapitre 13 qui est très connu, qui est souvent cité dans les mariages à propos de l'amour, et où il va dire que l'amour est indispensable, que c'est supérieur à ses autres dons, et que c'est la plus grande chose. Il va dire si je donne tout mon argent, ma vie pour les pauvres, si je me etc., mais que j'ai pas l'amour, ça sert à rien. Il veut vraiment montrer à ses Corinthiens que l'idée c'est de s'aimer, d'aimer l'autre plus que soi-même, et de les dons que l'Esprit peut nous donner, c'est principalement pour que l'autre en bénéficie, pour que je puisse aimer l'autre.
C'est comme la musique, par exemple. Moi, j'aime beaucoup partager ma musique avec les autres, tu vois, parce que c'est pas juste moi, je veux jouer pour prendre plaisir moi-même, tu vois, pour être, voilà, pour me croire plus, pour que je croie pas beaucoup, mais c'est pour aider les autres, même pour qu'ils puissent profiter de ma musique.
Donc il finit avec le chapitre 13 et c'est exactement ce genre de choses. Et il va, après au chapitre 14, il va parler du fait que parmi les dons, celui que lui considérait comme étant le mieux, c'est le don de prophétie. L'idée de prophétie dans la Bible, c'est l'idée d'annoncer avec force les vérités de Dieu. Nous on a souvent tendance à dire que la prophétie, c'est que l'idée de prédire l'avenir. Mais c'est pas ce que la Bible veut dire. Ça fait partie, mais c'est aussi l'idée, par exemple, on pourrait dire que annoncer la Bible, rien que de peut-être partager un verset avec force à un moment opportun, c'est annoncer avec force les vérités de Dieu. Et Paul dit donc que ce don de prophétie, c'est le meilleur parce qu'il édifie le mieux l'Église. Il permet de construire l'Église le mieux, qu'il est utile pour convaincre et pour discuter avec les non-croyants. Et puis il finit en disant que ça permet aussi qu'il doit s'exprimer dans la paix et pas dans le désordre. Il y avait des églises où c'était un peu la pagaille. Et il dit non, ça doit être ordonné et on doit pouvoir s'entendre et s'écouter. Ça ne doit pas être n'importe quoi dans les églises. Alors aujourd'hui, certaines églises ne croient pas aux dons spirituels pour aujourd'hui. Nous, c'est pas notre cas. Il pense que c'était pour une période donnée de, du début de l'Église et que maintenant c'est plus le cas. Alors, on n'est pas d'accord, nous. Et puis, il y a certaines églises de nos jours qui continuent à mettre un don au-dessus de l'autre, à dire, il y a des églises souvent dans les mouvements qu'on appelle pentecôtistes qui vont dire que si on parle pas en langue, qui est un don, si vous savez pas ce que c'est, on peut en reparler plus en détail, mais ils vont dire, bah, ça, c'est vraiment le signe qu'on est sauvé, et si on n'a pas, alors il y a un doute sur le, et ça pose bien des problèmes, malheureusement, et bien des torts à beaucoup de croyants. Et personnellement, je pense que c'est une erreur. Mais
il y a l'inverse.
Qui croit qu'il ne faut pas parler en langue, oui, oui, aussi. La foi est par rapport au don et par rapport à l'Évangile et par rapport à la Bible, c'est souvent des questions d'équilibre. Et nous, en tant qu'humains, on aime bien aller soit à gauche, soit à droite, noir ou blanc. Il y a les dons et on fait complètement et un peu n'importe comment, ou alors il n'y a pas les dons du tout et on n'en parle pas du tout, et souvent on a, et c'est difficile de garder un équilibre, de bien exercer, et donc il y a un mélange. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a des églises où ils disent bon ben attention, le don du parler en langue c'est bizarre, on contrôle pas trop, donc on supprime, on dit que ça existe pas et on n'en parle plus. Dans le livre, il va finir en annonçant l'Évangile, en leur rappelant la base et l'essence même de l'Évangile dans 1 Corinthiens 15. Il dit « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui, cet Évangile, que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement votre foi aurait été inutile. » Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés. Conformément aux Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Alors après, il continue. Mais c'est ça, il dit voilà l'Évangile. Donc si vous voulez, si quelqu'un vous dit c'est quoi la... En croit l'Église, ben c'est ça le message. C'est quoi l'Évangile? C'est un bon passage à se rappeler. Comme je vous disais, Paul aussi, il va souvent dire, et on va le voir dans Jacques la semaine prochaine, qu'une foi intellectuelle où on dit bon ben Jésus est mort et ressuscité, voilà, on sait, puis c'est tout, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une réponse par rapport à ça et une vie qui réponde à ça. Dans Jacques, il va même dire, même les démons connaissent Dieu, quoi. Ils savent que Dieu existe, ils savent que Jésus a existé, est mort et ressuscité, mais ça ne les empêche pas de vivre comme il faut. Ils sont quand même opposés à Dieu, et donc c'est un rappel important. Ensuite, Paul va finir avec, dans ce chapitre 15, il va parler de la résurrection, parce qu'il y avait des gens qui disaient à Corinthe, ben, la résurrection, ça n'existe pas, c'est des miracles, et Paul va leur dire, mais si la résurrection n'est pas vraie, alors notre foi ne sert à rien, Jésus n'est pas ressuscité, et on est les plus ridicules des hommes, et notre foi ne sert à rien, et on peut rentrer à la maison et retourner à nos moutons. Il aborde cette question-là et puis il termine sur le chapitre 16 avec des choses par rapport à une collecte. Dans certaines de ses lettres, il avait fait dans son troisième voyage missionnaire, dans les églises, il avait demandé de l'argent pour l'amener à Jérusalem, pour l'église à Jérusalem qui était très pauvre. Et donc, il va leur parler un petit peu de ça dans certaines des lettres. Il va avoir des parenthèses où il leur dit, au fait, je vais venir, ayez l'argent déjà mis de côté pour que quand je passe, je puisse le prendre et l'amener aux saints qui sont à Jérusalem et qui en ont besoin. Donc ça, c'est une idée aussi qui revient souvent dans les lettres de Paul. De Corinthiens. On a fait 40 minutes sur 1 Corinthiens. Bim, tout va bien. De Corinthiens, c'est un livre intéressant qui peut sembler bizarre quand on le lit, parce qu'on a l'impression que Paul se vante. Il va dire, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, eux ils disent qu'ils ont fait ça, mais moi j'ai tac, tac, et c'est un petit peu, on a l'impression qu'il est en train de rouler des mécaniques, en train de dire, je suis mieux que ces gars-là. Et en fait, il était attaqué dans l'église, il était présent à l'église, et puis il est parti. Et une fois parti, il y avait des gens qui se mettaient à le critiquer, à l'attaquer un peu dans le dos, quoi. C'est un peu comme si Pierre partait un mois quelque part et moi je commence à dire, mais Pierre en fait il sait pas trop ce qu'il raconte, et Pierre quand on l'a au téléphone il fait le malin, mais en fait quand il est là il dit plus rien, et comme ça, et malheureusement les croyants à Corinthe commençaient un petit peu à gober, à se dire ouais en fait c'est vrai, Paul il parle pas très bien, qui sait, c'est vrai, c'est pas un des 12 apôtres qui était avec Jésus, il dit mais en fait finalement pourquoi est-ce qu'on l'écoute, et donc il y avait toutes ces choses là, et donc en fait Paul il est presque obligé de se défendre, on va pas tout regarder, mais il le fait presque contre sa volonté, et l'idée c'est que Paul est tellement, son intérêt c'est que les croyants croient le message qu'il a amené, qu'ils croient l'évangile, et il sait très bien que si lui est attaqué et que les croyants le rejettent lui et disent non en fait il raconte n'importe quoi, bah, ce qu'il leur a enseigné, ce qu'il leur a communiqué, ils vont rejeter son message aussi, et donc il a tellement envie d'être sûr qu'il garde ce message-là, qu'il se sent obligé de se défendre, de dire, bon, ben, puisque je veux vraiment que vous acceptiez ces paroles, et puisque les gens m'attaquent, ben, je vais dire, voilà mes, un peu comme si on disait, voilà mes diplômes, quoi. Voilà, j'ai fait telle école, j'ai fait ci, j'étais, ah, eux, ils disent qu'ils sont juifs et ils veulent que vous, il y avait toujours cette question, de revenir à la loi. Souvent, il y avait les croyants juifs qui venaient, qui disaient, oui, on est sauvé par la foi, mais aussi en faisant la loi juive et en rajoutant des choses. Et donc, Paul, il arrive et il dit, non, moi, j'étais scribe, j'étais pharisien, j'ai été élevé par les meilleurs rabbins de l'époque, je connais très bien la foi juive, j'étais dans le Sanhédrin, j'étais le premier à persécuter, etc., etc. Il va raconter, et les choses qu'il raconte, on se dit un petit peu, c'est un petit peu bizarre, mais c'est vraiment, Paul se sent obligé de se défendre parce qu'il a envie que ces gens à Corinthe croient le message qu'il leur a donné et qu'ils se fassent pas avoir. C'est intéressant aussi de se rappeler ces choses-là. Je l'avais marqué ici. L'idée que c'est quand même Paul, quoi. Quand on parle de Paul dans la foi chrétienne, on se dit bon, c'est un personnage, quoi. Il y a Jésus, Pierre peut-être, Paul et peut-être Jean, quoi. Mais si je veux dire dans la foi chrétienne du Nouveau Testament, on se dit c'est les cadors, quoi. Si c'est les mecs. Et de s'apercevoir que des églises où ils étaient présents en personne, 6 mois après, se mettent à se dire, ah oui, en fait, non, c'est un guignol, il raconte n'importe quoi, il est mal, regardez-le, il est mal habillé, il parle doucement avec une voix un peu bizarre, et quand on voit ce qu'il a écrit, et c'est un bon rappel de se dire que nous, humains, on est tellement attachés à l'extérieur. On a tellement et c'est notre nature humaine qui est tellement toujours attaché à l'apparence, qu'il suffit que quelqu'un arrive qui est mieux habillé, qui parle mieux, qui ait une apparence un peu meilleure, et on va se dire, tiens, en fait, lui, il a raison. Alors qu'il peut raconter des balivernes. Regardez les élections, malheureusement, souvent, ça se joue là-dessus. Si un gars est beau, grand et parle bien, on va aller lire parce qu'il est plus agréable à regarder la télé, quoi. Et c'est vrai aussi dans les églises. Et c'est un rappel pour nous de nous dire, on doit connaître notre Bible, et quand quelqu'un parle et enseigne, on doit vérifier que ce qu'elle dit est correct, et on doit peser le pour et le contre. Et Paul, dans Acte, il va complimenter une église dans une région qui s'appelait Bérée. Il va complimenter les Béréens qui, après que Paul ait enseigné, allaient regarder dans la Bible, allaient regarder, se dire, tiens, est-ce qu'il a dit est vraiment cohérent, etc., etc. Et donc, c'est un bon rappel de se dire que même Paul, On se dit quand même que Paul, s'il était à l'église le dimanche matin, bah là, tout le monde écouterait. Et en fait, on s'aperçoit que peut-être pas. Et peut-être que même moi, je me dirais, ah, tiens, il est ennuyant. Quand il parle, c'est plat, etc., etc. Et donc, c'est un rappel de ne pas rejeter ce que quelqu'un nous enseigne sur le contenu, mais sur le contenant ou la forme, l'apparence, mais sur ce qui est dit et la vérité qui est annoncée, et aussi d'écouter en essayant d'écouter pour entendre la vérité, pas pour être amusé en quelque sorte. Est-ce que Pierre le dimanche matin il a fait un PowerPoint avec des jolies photos pour que je retienne bien un point, ou est-ce qu'on vient en se disant je veux vraiment entendre ce qu'il a à dire et je pense qu'il va annoncer la vérité, donc je vais écouter et me concentrer sur la vérité qu'il peut avoir dedans. Alors dans 2 Corinthiens Paul va parler de son ministère et va un petit peu ramener aussi là en disant mais le ministère c'est pas seulement le fait de d'être assis sur un trône et d'être tranquille dans la gloire, c'est servir les autres et c'est pas parce qu'on est en, c'est un petit peu, il dit voilà, Jésus a nettoyé les pieds des apôtres, c'est l'exemple à suivre et c'est pas se tenir sur un trône et dire voilà ce que j'ai à dire, allez me chercher un café, voilà. Et c'était un petit peu ce qu'il reprochait, il disait Paul il est dans le coin à balayer, à dire des versets de temps en temps, c'est qui ce gars-là, et donc vraiment pour moi c'est un bon rappel. Il parle ensuite des dons pour l'église à Jérusalem, ce que je vous disais, la récolte pour Jérusalem. Et puis, sur la fin, les chapitres 10 à 13, il va défendre son autorité apostolique, dire pourquoi il se considérait comme un apôtre, se défendre contre ses accusations. Passons à Galates. Galates, c'est une région, c'est pas une ville à proprement parler, et c'est une région où Paul a établi des églises, et il leur écrit donc une lettre, et il corrige encore une fois ce que je vous disais, des points sur la doctrine du salut, et il y a pas mal d'idées qui sont très semblables à ce qu'on a vu dans Romains. La justification par la foi, le fait qu'on est sauvé par la foi seul. C'est pas les œuvres, c'est une réponse à ce salut qui est fini, à cette justification qui est terminée. Mais il n'y a pas besoin d'ajouter des choses pour être sauvé vis-à-vis de Dieu. Et c'était encore une fois ce groupe de, il y avait ce qu'on les appelait les judaïsants, c'était des croyants qui allaient dans les églises à dire ah mais il faut aussi respecter ce qu'a dit la loi. Et donc il va donner pas mal de précisions par rapport à ça. Et c'est intéressant, il va commencer dans Galates 1, les versets 6 à 9, en disant, si quelqu'un vient avec un autre évangile que ce que je vous annonce, c'est faux, le mot qu'il utilise, c'est anathema en grec, qui veut dire, pas sauvé, quoi. C'est des gens qui sont hors de l'église, qui sont pas des croyants sauvés, et donc il dit, si quelqu'un vient avec une autre idée du salut, un autre évangile que ce que je vous ai annoncé déjà, c'est vous pouvez le jeter, c'est à ne pas considérer. Et il va revenir sur l'idée de la loi et que la loi ce n'est pas pour nous sauver, mais la loi c'est pour montrer qu'on a besoin d'un sauveur. Que la loi en elle-même, elle n'a pas la puissance de nous changer. Vous voulez le passage là ? C'est le verset, par exemple, verset 8, quand il dit « Vous annoncez un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. » C'est-à-dire qu'il...
Un 8, pardon.
Et il va continuer au verset 9, « Qu'il soit maudit si quelqu'un annonce autre chose. » Et ça veut dire rejeter... comme s'il n'était pas croyant, pas sauvé, quoi. L'idée, c'est que la loi n'a pas la puissance pour nous sauver. Elle nous montre juste qu'on n'est pas capable d'y arriver. Dieu a dit, voilà la loi. Si vous voulez être sauvé, il faut respecter ça. Et on regarde la loi et on se dit, j'y arrive pas. Et on voit dans les enseignements de Jésus que Jésus élève même le niveau. Il dit, même si c'est une pensée, mais que vous agissez pas, c'est comme si vous l'aviez fait. Vous êtes juste retenu parce que vous savez que vous risquez de finir en prison, mais en fait, vous voulez vraiment le faire. Et
d'un côté, il faut respecter la loi, d'un autre côté, il ne faut pas se laisser prendre par la loi.
L'idée, c'est que c'est pas que la loi est mauvaise en elle-même, mais c'est que c'est pas le respect de la loi qui nous sauve. Et c'est vraiment cette idée de salut. Encore une fois, c'est pas l'idée du comportement derrière. On doit se comporter bien, mais c'est l'idée qu'on est sauvé par la foi. Et il va dire que la foi en Jésus-Christ, elle a la puissance de nous changer, parce que par l'Esprit Saint, Dieu peut changer notre nature même. Et ça fait un peu écho toutes ces choses à dans Romains. Il y avait le chapitre 7 où Paul il disait par rapport à la loi, je me retrouve. Je veux faire le bien, mais j'arrive pas et je fais même pas ce que je veux. Et il finit un petit peu en disant, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Dans Romains 7 et le passage dans Romains 8 où il dit, grâce soit donnée à Jésus. Par l'Esprit, je suis sauvé et il n'y a plus de condamnation. Et c'est cette idée que c'est par sa propre force, par ses œuvres, il va pas y arriver et que c'est grâce à l'Esprit qu'il peut être sauvé. Et il s'étonne même, les Galates, il leur dit, mais je m'étonne même, comment vous pouvez arriver à, vous avez cette liberté, cette légèreté qu'on voit dans Romains 8, où il dit, je suis libre, je suis sauvé, c'est bon, c'est fait, c'est acquis, j'ai plus ce poids sur moi, et vous voulez revenir dans Romains 7 et vous remettre ce poids où tout dépend de vous, de si vous faites bien ou pas, etc. Et il dit, je comprends pas que vous ayez envie de revenir à ça. Alors il va continuer. Alors il y a pas mal de choses, mais par rapport à ces idées-là, et il va leur dire, on voit des fruits différents quand les gens veulent être sauvés par la loi. Il y a des fruits qui sont pas bons. On le voit dans le peuple, parmi le peuple juif, dans l'histoire du peuple juif avec la loi, les comportements ne sont pas bons. Et lui dit, regardez le fruit de l'esprit, et c'est là justement ce que je vous disais dans Galates 5 où il va leur dire, ce sont de bonnes choses. Donc regardez les fruits et voyez vous-même que c'est pas les mêmes issues si on est sauvé par la grâce ou pas. Alors il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais on va passer dans Éphésiens. Que je vous disais est un livre qui présente pas mal de doctrines sur l'Église. Paul va parler de ça en parlant du mystère de l'Église. Et l'idée, c'est un petit peu que dans l'Ancien Testament, c'était pas quelque chose dans les prophéties qui était visible. Et maintenant, à l'époque, après la vie de Jésus et le don du Saint-Esprit à la Pentecôte, il y a cette réalité de l'Église qui est une réalité, mais qui était finalement un mystère avant, qui n'était pas connu, on ne savait pas qu'il allait avoir l'Église comme ça, et que ça allait se passer comme ça. Et donc il va donner pas mal de détails par rapport à ça. Il va présenter la richesse que nous avons en tant que croyants, en tant que corps de Christ. Et puis il va présenter un petit peu ce que doit être notre quotidien en Christ. On pourrait dire qu'il parle aussi du royaume des cieux. Quelques versets qu'on peut noter, alors juste pour passer dedans, dans Éphésiens 1, le verset 4, en lui Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Ensuite, au verset 13, là, en continuant, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » au chapitre 2, peut-être on peut lire le verset 8. Encore une fois, il va dire « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre ? Éphésiens 3, le verset 5, il dit, il parle du mystère de Christ au verset 4, il dit, il n'a pas été porté à la connaissance des hommes, des générations passées, comme il a été maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Et puis, au verset 4, ce que je vous disais, alors il y a souvent cette transition, au chapitre 4, pardon, Éphésiens 4, verset 1, « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » Et il va donner des choses pratiques. Et souvent, on voit cette transition où il dit, voilà plein de vérités théologiques, des choses qui sont vraies, et puisque ces choses sont vraies, je vous exhorte à vous comporter d'une manière qui correspond à ces vérités. On voit aussi un passage dont on parle souvent dans le chapitre 6, les versets 10 à 20, c'est ce qu'on appelle les armes ou l'armure du chrétien. Et c'est un passage qui est intéressant à lire, mais qui nous présente l'idée que la vie chrétienne est un combat et que Dieu nous a donné des choses à revêtir comme une armure pour le combat dans la vie spirituelle. Voilà pour Éphésiens. Philippiens.
Verset favori, mon verset préféré, c'est les Philippiens 4:13.
4:13, qui dit ?
Il dit, je peux faire tout ce que je peux grâce à Dieu, juste comme ça, voilà. C'est grâce à lui que je peux faire tout ce que je peux. Mm-hmm.
Ouais. Ouais. C'est toujours bon d'avoir un verset préféré. Philippiens parle de la joie et de l'unité dans la souffrance. Les chrétiens de l'époque étaient souvent persécutés. Nous, on a un petit peu moins ce problème-là, en tout cas dans le monde occidental. Il y a bien des pays de nos jours même où les chrétiens sont persécutés. Et Paul va dire plusieurs fois aux gens de se réjouir en Jésus-Christ. Et pour résumer très brièvement, c'est l'idée qu'il va leur donner de bonnes raisons de se réjouir. L'idée, c'est que peut-être que les circonstances sont mauvaises, que vous souffrez, que c'est difficile, mais ce qui nous attend en Christ est tellement bon que même dans ces circonstances présentes, on peut se réjouir et vous devez vous réjouir. C'est la bonne chose à faire. On va regarder quelques versets si vous voulez. Philippiens 1, 21. Disant que par rapport à l'idée de la mort, il dit en effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Il parle du fait d'être persécuté, d'être mis en difficulté, de dire que qu'il est tellement sûr de Jésus et que, alors, Ici, c'est l'idée que s'il meurt, pour lui, c'est un gain parce qu'il finit au ciel avec Jésus et qu'il sera mieux là-haut que dans sa situation présente. Mais que si Dieu veut qu'il continue, il reste par obéissance. C'est des choses qui sont parfois dans les lisant, on se dit c'est assez difficile à envisager pour nous dans la vie. Dans Philippiens 2, verset 5. Alors au verset 4, il y a aussi ce que je vous disais par rapport à la maturité spirituelle et par rapport à Jésus. Il dit que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Cette idée que je vous disais que Jésus a considéré notre intérêt avant le sien et par amour pour nous a préféré laisser de côté ses privilèges et sa position pour nous sauver. Il y a pas mal de choses encore qu'on pourrait dire. Hein, le Philippiens 4:4. Alors ça revient souvent dans le livre. Il dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et c'est une idée qui revient qu'en Christ on doit avoir la joie et que si on même dans des circonstances incroyables et dans des circonstances très difficiles, il veut qu'on ait la joie et qu'on comprenne ce qui est vraiment important. Et si on médite et qu'on réfléchit vraiment à la vie chrétienne, est-ce que Dieu, le message de la Bible, alors si on est sauvé, ça doit être suffisant pour qu'on ait la joie, quelles que soient nos circonstances.
Alors, c'est vraiment la foi, toujours. La foi parfois peut t'affaiblir si on ne fait pas confiance en Dieu, mais faut que tu fasses confiance en Dieu.
Mais c'est difficile parfois, et c'est pour ça qu'on a besoin d'encouragement et de qu'on nous le répète. Colossiens. Il nous en reste encore quelques-uns, mais on y est presque. À l'époque de Paul, et dans le 1er et 2e siècle, il y a une sorte de philosophie ou d'influence oui, théologique, je ne sais pas exactement, c'est un peu flou, ça s'appelle les gnostiques. Le mot agnostique vient de ce mot-là, et c'était le gnosticisme, ou les gnostiques qui ont influencé l'Église, et Colossiens, il va un petit peu adresser certaines questions. Et les gnostiques, c'est un peu comme je vous disais, c'est un peu un truc un peu flou, un peu ésotérique, si on veut, avec une idée qu'il y avait un peu une connaissance secrète, ou ce qu'ils appelaient des gnoses, qui étaient un peu des connaissances, des choses qu'on apprenait, des mystères que certains avaient. C'est un peu des trucs un peu bizarres, et ils avaient l'idée que l'homme, en fait, était un peu un être supérieur, bon, mais que la matière, tout ce qui est physique est mauvais, que donc on est piégé dans le physique et qu'il faut arriver à essayer de se libérer du physique. Et c'est une chose un peu bizarre. Et donc, il commençait à remettre un peu en cause l'humanité physique de Jésus en disant, en fait, Jésus, c'était un être parfait. Donc, comme on sait que la matière physique est mauvaise, Jésus, en fait, peut-être qu'il n'était même pas vraiment physiquement homme, peut-être que c'était une sorte d'apparition. Donc il y avait des trucs bizarres qui rentraient dans l'Église. On avait dit Jean, l'évangile de Jean a été écrit plus tard et parle aussi en partie et doit aborder certaines de ces idées-là et dire Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu à la fois, il y a les deux ensemble. Et dans Colossiens, ça va être un petit peu l'idée. Encore une fois, pour faire très brièvement, hein, et C'est un livre où il est énormément question de Jésus. Si vous, si vous notez Christ ou Jésus-Christ ou lui ou le Fils, etc., il y a des références. C'est tous les versets quasiment. C'est vraiment très dense à ce niveau-là. Alors il y a par exemple au chapitre 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors il continue, mais il s'attarde vraiment sur des idées par rapport à Jésus et sur la personne de Jésus et son importance. Il y a évidemment plein de choses qu'on pourrait dire. Toutes ces choses-là, ce que je vous ai lu, c'est des choses sur lesquelles on peut passer beaucoup de temps. Peut-être au chapitre 2, verset 8. Un passage qui est important. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité, etc., etc. Mais on voit qu'il appuie, où il dit c'est toute la divinité, mais corporellement aussi dans un homme. Et donc là, il veut corriger vraiment par rapport à cette doctrine qui arrivait dans l'Église, qui corrompait un peu l'Évangile. 1 et 2 Thessaloniciens, on a dit qu'on allait regarder plus tard. Et il nous reste donc ce qu'on appelle communément les épîtres pastorales. C'est des lettres un petit peu écrites pour des pasteurs ou pour dire comment se comporter dans l'Église, comment gérer l'Église. Et il y a notamment 1 et 2 Timothée qui sont les deux livres les plus conséquents par rapport à ça. Timothée, c'était un jeune qui était venu à Jésus et que Paul avait un petit peu pris sous son aile et qui était très cher à Paul. Il l'aimait beaucoup et il avait vraiment une relation avec lui presque comme un fils. C'était quelqu'un pour lui qui l'aimait tellement. Il y avait une relation très forte. Et donc ici dans 1 et 2 Timothée, il va donner des leçons, il va expliquer des choses à Timothée qui prenait de l'importance dans l'Église, mais qui était comparativement assez jeune. On pense qu'il avait peut-être une trentaine d'années, peut-être un petit peu plus dans ces deux livres, mais à l'époque c'était considéré comme assez jeune, et notamment peut-être par rapport à des juifs qui avaient dans leur foi plutôt des personnes un peu plus âgées qui dirigeaient. Donc il veut l'encourager, et ce sont des livres où il va lui expliquer des choses très pratiques, à dire bon ben s'il se passe telle chose, fais ça, et aussi beaucoup d'encouragement, où lui il va lui dire il y a des oppositions, il y a des gens qui sont contre toi, qui veulent faire des mauvaises choses, qui s'éloignent de la bonne foi ou des bons comportements, mais reprends-les, reste fidèle à ce que je t'ai enseigné, ne dévie pas de cette route-là. Et donc c'est des choses qui reviennent. Est-ce qu'il y avait on voit par exemple 1 Timothée 1:6, ou même à partir du verset, enfin on peut dire à partir du verset 5, le but de ces instructions, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont écartés de cette ligne et se sont égarés dans des discours creux. Ils veulent être des professeurs de la loi, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent ni à ce qu'ils affirment avec assurance. Et donc, il va l'encourager par rapport à ces personnes. Au verset 19, il continue. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors, il y a plein de passages. Dans le chapitre 4, au verset 1, il dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, etc. etc. » Et entre les lignes, on sent un petit peu peut-être de découragement de la part de Timothée, qui est mis un petit peu en position de pasteur, et puis il y a des choses dans l'église qui vont pas, des gens qui font n'importe quoi, et Paul qui l'encourage, qui dit oui, oui, c'est normal, il y a des gens qui vont se détourner, qui vont faire n'importe quoi, qui vont croire des balivernes, qui vont tenter de corrompre, qui vont essayer de s'immiscer, etc. Et qui l'encourage, qui dit reste concentré sur l'essentiel, voilà les choses pratiques, n'oublie pas, te décourage pas. Et ça reste vraiment très pratique. Donc 2 Timothée, c'est la dernière lettre de Paul en termes de date. C'est la plus tardive de Paul. Et c'est une lettre qui est très poignante dans le sens où Paul est à Rome et est convaincu dans ce qu'on on lit entre les lignes qu'il est convaincu que son heure vient en quelque sorte. On sait qu'il a été exécuté à Rome et il a l'impression qu'il arrive au bout de sa course et c'est des choses un peu comme s'il écrivait sa dernière lettre à Timothée, un peu comme imaginez-vous que vous allez chez les médecins pour quelque chose et ils vous disent ah vous avez une maladie rare incurable et vous en avez pour un mois. Et là, vous devez, qu'est-ce que vous dites à vos enfants ou à vos proches amis, et c'est un petit peu cette idée-là, c'est un petit peu comme s'il leur disait, ah, j'aimerais vraiment que tu puisses être avec moi, mais si je te revois pas, ben voilà les derniers trucs que je veux te donner pour que tu, et on sent tout l'amour et tout le cœur que Paul a pour Timothée pour lui dire, voilà les derniers points, et pense à ça, et n'oublie pas ça, et vraiment un gros cœur, quoi. Ouais, et on voit notamment, il y a un verset qui est important et qui est souvent repris dans les églises, dans 2 Timothée 2, 1, où il dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Et au verset 2, « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et c'est une idée de comment l'église doit faire des disciples aussi, et c'est cette idée de prendre les vérités qu'on entend, qui sont dans la parole de Dieu, et de les confier à d'autres hommes qui soient capables aussi de l'enseigner. Et cette idée de transmission comme ça, de Paul a entendu les choses, il les a communiquées à Timothée, et il dit à Timothée, et toi aussi, ce que je t'ai enseigné, apprends-le à d'autres qui soient capables eux aussi après de, et on voit que l'église a perduré jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a eu cette transmission comme ça de personne fidèle à personne fidèle. Et pour conclure, les livres de Tite et Philémon, Tite est un collaborateur aussi de Paul qui avait voyagé avec Paul pendant certains des épisodes qu'on voit dans Actes. Et dans ce livre, en fait, l'idée c'est qu'il était envoyé en Crète pour s'occuper de l'église là-bas, pour un petit peu organiser. Et Paul va donc aussi lui donner des conseils assez précis sur la conduite et comment organiser l'église et quoi faire dans différentes situations par rapport à ce qui s'y passe. Et donc il va donner des choses par rapport à l'ordre dans l'église, à la sainte doctrine et puis les œuvres à suivre dans l'église. Et donc c'est une petite lettre. Et puis Philémon, c'est une lettre encore plus petite, qui est juste un chapitre et qui est vraiment une lettre personnelle là aussi. Et Paul écrit à un certain Philémon qui connaissait, qui était chrétien. Et en fait, il écrit parce qu'il renvoie un gars qui s'appelle Onésime, qui avait été esclave de cette personne Philémon. Et Paul... les deux sont maintenant chrétiens et Paul renvoie à Onésime en lui disant voilà, c'était ton serviteur, c'était ton esclave. C'était pas un très bon esclave et il s'est échappé en plus, mais je te le renvoie et accepte-le avec l'amour comme un chrétien doit aimer un autre chrétien. Et ce livre nous donne donc des idées sur comment les chrétiens doivent se résoudre les torts qu'on peut avoir ou les fautes qu'il peut avoir entre chrétiens, si on fait du mal à quelqu'un dans l'église ou si quelqu'un nous a fait du mal ou si on a si on, il y a eu des problèmes entre les chrétiens, c'est un petit peu comment les résoudre. Et l'idée, c'est que l'amour chrétien doit couvrir ses fautes. Et encore une fois, l'exemple, c'est Jésus. Et finalement, Jésus, c'est l'idée, c'est que nous, on a fait du tort à Jésus. Et Jésus a dit, bon, bah, je les prends pour moi et je passe dessus. Et Paul va même dire, en écrivant à Philémon, il dit, s'il te doit quelque chose ou s'il a encore une faute qui reste, mets-le sur mon compte. En quelque part, s'il doit de l'argent, bah, moi, je paierai pour lui si c'est vraiment un problème, etc. Mais reçois-le. Et en note, c'est intéressant de voir que Paul ne parle pas de l'esclavage comme un problème. Souvent, on peut être tenté de se dire, bah, l'esclavage, c'est quand même à l'époque, c'est pas la foi. Pourquoi est-ce qu'il reprend pas pour, Philémon, t'es chrétien maintenant, tu devrais plus avoir d'esclaves. Et l'idée aussi, et c'est un bon rappel, c'est que l'amour chrétien, ça c'est mieux et c'est plus puissant que les campagnes sociales ou les politiques ou souvent on se dit mais pour résoudre les problèmes dans le monde, il faut que les politiciens prennent des bonnes décisions, etc. machin, pour le problème actuellement, les problèmes syriens, etc. On veut qu'il y ait, et Jésus nous appelle, nous, à aimer notre prochain qui est là et à avoir un gros cœur et à pardonner les torts et que ces choses-là, finalement, sont l'amour qu'on peut avoir par l'Esprit Saint en nous. C'est quelque chose qui, à terme, si tous les chrétiens le font, change le monde. Et on le voit dans l'histoire de l'Église que ça a vraiment changé la face du monde romain. Et on peut regarder dans l'histoire de l'humanité plein de situations, plein de circonstances où l'amour chrétien, où quelqu'un a vraiment envie de servir Jésus en aimant son prochain, en prenant les causes qui pouvaient être mauvaises ou qui peuvent être des problèmes sociaux très graves, et qui va vraiment, pas parce qu'il aborde la question de manière forcément politique ou sociale, mais en se disant bon bah qu'est-ce que je peux faire pour mon prochain maintenant là, et que ça fait effet boule de neige et que ça a changé le monde pas mal de fois. Et donc c'est un bon rappel. Philémon, c'est tout court là, mais c'est des idées aussi très profondes. Voilà pour ce soir.